Laurent Hérault-Chaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien au sein de la compagnie du Pas de l'Oiseau et vous allez le 7 décembre prochain au Tran dans le cadre du festival de montagne, ciné et culture faire vibrer, faire résonner une singulière histoire, une aventure humaine dans un village de montagne des Hautes-Alpes nommé Chaudin. Vous adaptez à cet effet un récit paru aux éditions Point, il me semble, du journaliste Luc Bronner, Chaudin, la montagne blessée. Alors, Laurent Hérault-Chaume, qu'est-ce qui a bien pu vous stimuler à vous emparer de cette situation, à investir cette épopée dramatique d'épuisement du territoire par ses habitants dans le Haut-Buëch? Qu'est-ce que Chaudin? Mais tout d'abord, présentez-nous cette compagnie du Pas de l'Oiseau.
Eh bien, écoutez, le Pas de l'Oiseau a fêté ses 20 ans l'année dernière, donc on est presque une vieille compagnie. On est installé dans le Buëch à Vennes, précisément, qui est une cité cheminote. Donc c'est un petit peu à la fois une ville ouvrière et un grand village, on va dire, à la montagne. On fait un travail autour des arts de la parole. Donc avec ma collègue Amélie Chamou, on écrit des histoires. Souvent, la plupart du temps, c'est rare qu'on reprenne des textes qui ne sont pas de nous. Et puis on anime beaucoup d'ateliers, de formations. Et la particularité du Pas de l'Oiseau depuis 2019, c'est que la mairie de Vennes a construit un théâtre et nous a confié une partie de la programmation qui a lieu là-bas. Donc on gère deux gros festivals chaque année qui s'appellent La Fureur de Dire, Festival des Arts de la Parole, et La Grande Évasion l'été, et puis une saison d'hiver où on programme des spectacles tous les mois dans le quai des Arts à Vennes. Donc voilà, on manque pas de travail, mais on est très très heureux de venir jouer à Autran, parce que on sait que c'est un très beau festival avec une très belle programmation. Donc on est très heureux de venir par chez vous.
Alors vous êtes effectivement à proximité du lieu, hein, de cette histoire à la limite des Hautes-Alpes, de la Drôme presque, on pourrait dire, Chaudin. Une histoire que vous connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a vraiment stimulé à la mettre en scène? Vraiment une aventure très singulière, hein, on peut dire.
Oui, alors c'est à la fois, il y a mille et une raisons comment on choisit un spectacle, c'est toujours complexe. Mm-hmm. Ce qui est sûr, c'est que quand j'étais petit, j'allais garder les vaches avec mon grand-père à Chaudin. Yeah. Donc j'ai un lien, j'allais dire, familial. Chaudin, pour être très précis en termes de géographie, est un espace naturel qui est en fait la frontière entre le Champsaur et le Buëch, puisque c'est l'endroit où il y a les sources du Buëch. Mais on peut aussi accéder par le col Bayard, la route Napoléon. Et on en parlait déjà dans les Hautes-Alpes avant la sortie du livre de Luc Bronner. C'est une histoire particulière d'un village abandonné. Mais des villages abandonnés dans les Alpes, en fait, il y en a énormément. Et il y a plusieurs raisons qui ont poussé à ce que ces villages disparaissent. Mais l'histoire de Chaudin est vraiment atypique, en fait, parce que ce que raconte le livre de Luc Bronner, les habitants décident collectivement de partir. Et c'est ce qui est particulier à ce village-là, puisque d'habitude, on va dire, les gens qui avaient un peu plus d'argent partaient en premier. Et puis petit à petit, il restait une famille et puis on finissait par dire « bon, ben on arrête ». Souvent, ça se terminait entre, on va dire, la Première et la Seconde Guerre mondiale. La plupart de ces villages de montagne ont disparu. Là, on est à la fin du 19e et le village à la fois vit dans une extrême précarité. Les enfants meurent souvent très très jeunes, il y a des gros problèmes de nutrition, d'accès aux différents services, etc. Et puis il y a une surexploitation de la nature. Voilà, donc dans ce texte-là, moi, pour revenir aux raisons qui m'ont poussé à ce texte-là, c'est les résonances contemporaines, c'est-à-dire que ça nous parle du 19e siècle, mais ça nous parle du rapport à la nature, au vivant, et par ailleurs, ça nous parle aussi de migration, et donc de gens qui décident de quitter leur habitation pour vivre ailleurs, pour survivre, enfin, ils se sauvent, quoi. Et cette fuite, elle raconte un courage, mais elle est aussi tragique, voilà. Ça m'a vraiment bouleversé, ce texte est assez touchant, et donc on a voulu le rendre accessible avec cette création.
C'est véritablement, hein, comme vous le soulignez, une métaphore avec la situation que nous vivons actuellement autour de l'épuisement de ressources, la dégradation du vivant et des gens qui s'accrochent désespérément un peu jusqu'au bout avant de finalement prendre cette décision de partir collectivement.
Ouais, ce qui est particulier, c'est que en fait, ils louent leurs terres pour les alpages, pour les moutons qui viennent du sud, notamment de la Provence, on va dire, notamment autour de Manosque, etc. Chaque année, les moutons montent dans les alpages et c'est des moutons qui ne sont pas propriété des habitants de Chaudun. Mm-hmm. En fait, ils louent leurs terres et au fur et à mesure, les moutons mangent tout ce qu'il y a autour d'eux et petit à petit, il n'y a plus d'arbres. Les arbres ont été utilisés pour se chauffer l'hiver. Et puis, on n'arrive plus rien à faire pousser puisque quand il y a trop de moutons, la terre est un peu comme brûlée. Ces habitants, en fait, ce que je trouve vraiment touchant, c'est aussi l'idée que c'est pas possible de vivre dans ces conditions-là. Donc, ce qui les pousse dehors, c'est déjà que c'est invivable, le rapport à la nature est complètement déséquilibré, ils arrivent plus du tout à vivre dans cet espace naturel, et ils ont, on va dire, abîmé leur nature, mais on est toujours dans l'ambiguïté de qui est le fautif finalement, quoi. Et on comprend au fur et à mesure du livre qu'il y a aussi le fait que l'État n'a pas fait en sorte qu'il y ait une route pour accéder à Chaudun. Donc les gens, quand ils doivent aller à Gap, ils doivent faire à dos de mulet. Enfin voilà, il y a aussi cette notion-là de
d'autarcie, d'endroits très très fermés.
Ouais, d'endroits complètement fermés et qui n'arrivent pas à construire de relations avec le reste du monde. Et finalement, la lettre de 1888, il y a une lettre qui est signée par une grande partie des habitants de la commune et qui demande, et c'est là où vraiment ce tout petit espace de montagne, c'est une centaine de personnes perchées à 1500 mètres d'altitude, en fait sont en relation avec le reste du monde, puisque dans la lettre au ministre de l'Agriculture, ils disent... Bon, on est en train de mourir et notre situation est invivable. On vous propose de vous vendre notre commune. Et dans la même lettre, ils disent on sait que vous installez du monde en Algérie et on vous propose de nous vendre des terres en Algérie. Et ils décrivent l'Algérie comme cette nouvelle France, cette terre plus fertile. Et aujourd'hui, la résonance est terrible parce que évidemment, nous on connaît la suite de l'histoire. La nouvelle France n'aura pas lieu et puis la terre fertile est en train de devenir aujourd'hui un désert. Donc ce qui est bouleversant dans ce courrier, c'est comment les choses se télescopent, c'est-à-dire les enjeux internationaux, les enjeux liés à l'environnement, au rapport au vivant, et puis les parcours de vie qui sont assez tragiques, de familles qui ont du mal à vivre, quoi.
Et puis après les différentes strates de migration des habitants, oui, jusqu'à ce que finalement il ne reste plus grand monde et qui décide de quitter ce territoire. Chaudun, c'est effectivement une histoire très particulière dans laquelle vous donnez certains aspects de vie de village. Il y avait environ 150, voire jusqu'à 200 personnes.
C'est plutôt autour de 140. Et puis petit à petit, ça s'est mis 140, 150, effectivement. Et ça s'est mis à diminuer lentement. Et en fait, ils sont partis, quand ils sont partis, ils étaient encore 90 ou presque 100 personnes. Oui. Et c'est vrai que c'est un départ groupé, c'est très étonnant, quoi. Un village qui se vide d'un coup. Ça devait être un événement local. Finalement, ils sont pas partis, enfin, il y en a que très peu qui sont partis en Algérie. Mais la plupart étaient déjà partis en Amérique, quoi. Voilà. Donc, il y a tout un enjeu sur les migrations vers les États-Unis et le Canada, notamment, qui est une histoire aussi très connue dans notre département des Hautes-Alpes, puisque les champs sorins ont été plusieurs milliers, et on parle de plus de 5000 personnes, dont un tiers de femmes, pas seulement des hommes, mais aussi des femmes qui partent vivre aux États-Unis. Et donc il y a une partie des habitants de Chaudun qui étaient déjà partis en Amérique, notamment les jeunes, avec des filières de migration... complètement organisé, il y avait des départs toutes les semaines des Hautes-Alpes vers les États-Unis, quoi. Et qui, c'est un peu une aujourd'hui, quand on connaît les filières de migration entre l'Afrique du Nord, mais aussi l'Asie, l'Asie du Sud-Est, etc. Enfin, les différentes migrations mondiales liées au climat, mais aussi liées à la misère. En écoutant ce texte, on entend des résonances avec notre présent qui sont très touchantes et qui sont aussi une leçon qu'on doit tirer. Voilà, nos aïeux, nos arrière-grands-parents eux-mêmes ont décidé de migrer et de partir pour fuir la misère. Donc c'est une leçon aussi sur ces sujets-là.
C'est très éloquent et il y a beaucoup comme ça de métaphores avec la situation contemporaine, effectivement, qui donne des signes de vie très habitée dans ce spectacle où vous êtes plusieurs en scène. Alors, on parle de récits puisque vous êtes vous-même récitant, mais vous êtes entouré de comédiens, musiciens, on parle de musique, de danse et aussi de tradition des Hautes-Alpes.
Oui, alors ce qui est super dans la création de ce spectacle, et on est très heureux qui puisse tourner dans plein d'endroits différents, c'est que on travaille avec le duo Vargod, qui est un duo qui a un répertoire issu du répertoire traditionnel des Hautes-Alpes, donc des renveillés, des rigodons, enfin des airs traditionnels collectés dans le Dauphiné, hein, plus globalement, pas seulement dans les Hautes-Alpes, et qui le revisite. Pas du tout d'une manière, on va dire, conventionnelle, mais j'allais dire d'une manière rugueuse, aussi un peu comme c'est un peu comme une bande son de la réalité des habitants de Chaudung, avec un grain et une musicalité complètement, splendide, entraînante, et qui nous amène à certains moments vers une contemporanéité, on va dire, de la musique qui est proche du slam à certains moments, enfin voilà. Il y a un travail d'écriture musicale qui est assez précis, mais qui est issu du répertoire traditionnel des Alpes. Donc c'est un choc esthétique entre le récit et la musique qui nous semble assez... on a des très beaux retours là-dessus. Donc on est content de ce trio, en fait, puisque je suis avec les deux musiciens sur scène.
Avec le rigodon au cœur de tout cela.
Voilà.
Et le fil narratif qui aborde des côtés d'archives dans l'aspect récit.
Oui, Luc Bronner, qui a écrit cet ouvrage, est journaliste, c'est l'ancien directeur de la rédaction du journal Le Monde, il est grand reporter aujourd'hui. Et ce qui est très étonnant dans ce livre, c'est qu'il travaille vraiment comme un journaliste, donc il mène l'enquête sur ce village et il va aller... chercher les archives de l'église, les archives de l'armée, les archives départementales des Hautes-Alpes, pour essayer de tracer des parcours de vie, des parcours biographiques de telle famille par rapport au service militaire, telle famille, il y a eu tel décès, tel mariage. Enfin, il essaye de retracer un peu les différents arbres généalogiques du village pour donner de l'humanité et du corps à cette histoire qui nous paraît lointaine, quoi. Et ce qui est touchant, c'est qu'il passe des archives à une partie d'imagination de sa part, mais toujours très contenue, très retenue sur qu'est-ce que pourrait être la vie du village. Mais il essaye de ne pas juger, il essaye de ne pas dire où serait le bien et le mal dans cette histoire-là. Et ce point de vue journalistique, il est Pour nous, c'est vraiment ce qui fait la force de ce livre, c'est son articulation entre une partie un petit peu romancée et poétique et une partie journalistique et factuelle de qu'est-ce qui s'est passé précisément. Voilà.
Avec aussi l'aspect dramatique de la fuite, mais aussi ce que vous narrez sur scène, c'est la résilience après tout cela. Finalement, une situation qui rend maintenant, comme nous connaissons Chaudung, qui n'a plus du tout le même aspect.
Vraiment la beauté de tout ça, bon, c'est que bon, on va dire les habitants quelque part ont réussi leur fuite, ont réussi à vivre ailleurs, et puis la nature est revenue, elle n'est pas revenue toute seule, elle n'est pas revenue par magie, hein, même si évidemment un espace, quand l'être humain n'y est plus, le vivant prend sa place, mais le vivant au sens large, on va dire. Mais là, ça rencontre aussi une histoire nationale qui est l'histoire du reboisement. Et donc l'État rachète la commune et va planter des millions et des millions d'arbres pendant près de 10 ans à Chaudun, mais globalement dans les Alpes du Sud, dans le Dauphiné, dans les Pyrénées aussi, dans les Cévennes, un peu partout en France, toutes les montagnes, en fait tous les arbres qu'on a autour de nous sont des arbres qui ont été plantés, hein, quand on regarde les paysages de montagnes, il y a très peu de montagnes où les forêts étaient encore présentes. Pour mille et une raisons, en fait, l'État, ça serait trop long de revenir là-dessus, mais en gros, il y a les risques d'éboulement, le risque que les vallées ne puissent plus être habitables puisque les montagnes s'effondrent. Donc reboiser, c'est aussi une solution pour que les montagnes ne s'effondrent pas. Mais cette politique nationale à Chaudun, ce qui est magnifique, c'est que l'endroit est un endroit vraiment, vraiment magique et ça peut faire l'objet de belles randonnées. Mmh. Et pour la toute petite anecdote, mais qui raconte quelque chose, à Chaudun, il y avait une forêt qui était protégée parce qu'elle était
primaire,
propriété de l'église. Mmh. Et donc, les habitants n'avaient pas le droit de couper des arbres à cet endroit-là et ça a duré depuis plus de 500 ans, 600 ans. Ça s'appelle le bois du chapitre. Et le bois du chapitre, au moment où le livre a été publié, a été placé au patrimoine mondial de l'UNESCO comme forêt subnaturelle. C'est pas tout à fait une forêt primaire, mais une forêt subnaturelle, c'est-à-dire un espace qui n'est pas du tout traversé par l'homme depuis des siècles. Et donc cet endroit-là, il a un impact sur toute le retour du vivant, des oiseaux, des différentes formes de végétaux, d'insectes qui ont repris leur place à Chaudun. Et donc c'est vrai que le texte se termine par cette chose-là, que le vivant reprend sa place. Et donc finalement, il y a ce message d'espoir, c'est que voilà, en quittant les lieux, les habitants ont aussi laissé un héritage, qui est un héritage pas du tout financier pour le coup, mais un héritage naturel. Mmh. Et c'est la belle histoire de Chaudun.
Voilà, on parle de réensauvagement, hein, c'est ça,
voilà, complètement.
De ce secteur qui abrite ce bois du chapitre, donc une forêt qui a été, malgré un peu les attentes des habitants, qui est restée intacte. C'est un spectacle où vous êtes donc trois, avec la mise en scène aussi, dont on peut en parler, de la personne aussi qui a contribué à
oui,
la mise en scène.
Sûr, bien sûr, c'est à ma collègue Amélie Chamou, qui nous a fait faire ce travail-là, tout en simplicité, mais avec l'importance de garder les mots et le texte en avant. Donc, vous pourrez découvrir ça samedi. C'est un aspect lecture récit, donc je passe de la lecture au conte en permanence, et puis dans la relation avec les musiciens et la construction de ce trio là qui est toujours assez étonnant, comment la musique peut être aussi une manière de raconter l'histoire.
Voilà, avec le duo Vargoz, hein, violon,
exactement,
harmonica. Donc, musique traditionnelle qui fait bien résonner cette histoire, pour le moins incroyable, de Chaudun, la montagne blessée. Eh bien, au plaisir de vous retrouver sur scène, Laurent Hérault-Chaume, hein, ce samedi 7 décembre à 18h30, c'est bien cela ?
C'est parfait.
Dans la grande salle du festival d'Autran, à partir de 13 ans, on peut donc découvrir facilement, donc, avec passion, cette histoire. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Et puis, eh bien, à très bientôt et bon vent à la compagnie du Pas de l'Oiseau.
Merci à vous et bon vent à vous aussi.
Merci bien. Au revoir.
Au revoir.